Grande Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, les cas de Covid-19 se multiplient et l'Organisation mondiale de la santé juge la situation en Europe très préoccupante. Plusieurs pays européens prennent des mesures contraignantes pour limiter la circulation du virus. Depuis le début de la pandémie, la Suède a mené sa propre stratégie. Pas de confinement, peu de restrictions, mais des recommandations. Depuis, un peu plus de 100 000 personnes ont été contaminées et près de 6 000 sont mortes. Près de la moitié dans des maisons de retraite du pays. Alors que la Suède fait face à une recrudescence de la pandémie, la situation dans les maisons de retraite, justement, est observée de près, Anne-Françoise Hiver.
Et l'inquiétude monte. Mardi, l'Agence de la santé publique a révélé que le nombre de cas dans les EHPAD avait doublé en une semaine. Les visites interdites depuis début avril ont été de nouveau autorisées le 1er octobre. Était-ce une erreur? Les autorités sanitaires assurent que les établissements sont bien mieux préparés qu'au printemps. D'abord, le personnel dispose d'équipements de protection, ce qui n'était pas le cas alors. Quand le virus s'est propagé, les hôpitaux ont été les premiers servis. Les maisons de retraite ont dû patienter, parfois des semaines, avant d'obtenir des masques. Autre raté, avec le potentiel de se transformer en un scandale, l'interprétation des directives sur le protocole de soins à suivre pour les personnes en EHPAD. Très tôt, il a été décidé que les plus fragiles ne seraient pas hospitalisés. Mais les diagnostics n'ont pas toujours été faits par des médecins. Certains ont même suspendu leurs visites dans les maisons de retraite au printemps, abandonnant le personnel, souvent sans ressources. Des centaines de plaintes ont d'ailleurs été déposées par les employés auprès de l'inspection de la santé. Mais la crise sanitaire a surtout révélé les dysfonctionnements d'un secteur sous-financé, avec des employés en contrat précaire, des personnels qui changent souvent, autant de facteurs ayant contribué à la propagation du virus. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a annoncé 100 millions d'euros pour l'accueil des personnes âgées, ainsi que la formation de 10 000 aides-soignants. Difficile toutefois de savoir si cela sera suffisant pour faire face à la seconde vague qui est en train d'atteindre la Suède.
En Belgique, il y a eu 10 000 morts depuis le début de la pandémie. Et là encore, la moitié des décès se sont produits dans des maisons de retraite. Cela soulève de nombreuses questions sur la gestion de la crise dans les homes, l'Axe Milota. Des citoyens ont notamment porté plainte contre l'État.
Effectivement, il y a Eric, par exemple. Son père est décédé en mars dernier du Covid-19. Il séjournait en maison de retraite. Eric affirme que du personnel est venu travailler en étant malade, en ayant de la fièvre. Mais c'est l'État qu'il attaque, car selon lui, les maisons de repos ont été abandonnées. Pas de masques au début, pas de matériel et la fameuse destruction du stock de masques stratégiques du pays sur décision de la ministre de la Santé sans en commander de nouveau. Avec d'autres citoyens, il cite l'État en responsabilité civile devant le tribunal.
Lakshmi, vous avez pu rencontrer des personnes âgées durant le confinement dans des homes. Comment est-ce qu'elles se sentaient face à l'isolement?
Une dame de 90 ans, pourtant en très bonne santé physique et intellectuelle, encore capable de lire des polars, m'a dit, je cite, « J'espère attraper le Covid. Vous savez, je n'ai plus d'objectif. Je ne vois plus ma fille. » Bien sûr, des appels vidéo avec les familles étaient organisés dans cette maison de repos de Bruxelles. D'autres résidents ont pris la situation avec humour. Comme ils ne pouvaient plus se voir, manger ensemble au réfectoire, un monsieur s'amusait à glisser des petits mots sous la porte de sa voisine. Une autre m'a confié rêver de pouvoir retourner faire du shopping avec sa meilleure amie. Depuis le 1er juillet en Wallonie, les visites et les activités sont à nouveau autorisées, mais cela reste difficile. Deux personnes maximum et toujours les mêmes, sans contact physique.
D'autres pays en Europe ont fait face à cette surmortalité en maison de repos. Certains eurodéputés demandent une enquête européenne sur le sujet.
Effectivement, un débat parlementaire a eu lieu la semaine dernière sur ce thème. L'eurodéputé des Verts, Tilly Metz, demande une commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme dans les maisons de repos. Pour le moment, cette demande n'a pas abouti. Mais pour finir sur une note plus positive, sachez que des personnes âgées ont manifesté il y a quelques jours dans dans un parc de Bruxelles. Retraités mais pas périmés, seniors égale trésor, c'est ce qu'on pouvait lire sur leur pancarte. Avec des propos interpellants, une dame de 84 ans explique « Vous les jeunes, vous avez toute la vie, mais nous on est vieux et ce Covid, c'est du temps précieux qu'on nous prend ». Ils ont dénoncé les mesures trop strictes prises à cause du coronavirus et l'isolement que cela a entraîné, y compris quand on n'est pas en maison de repos.
En France, le modèle des EHPAD, les maisons de retraite publiques, semble être arrivé à bout de souffle. Après les scandales de maltraitance, il y a eu la crise sanitaire. Les collectivités tentent donc de trouver des alternatives. En milieu rural, certaines communes ont choisi d'investir dans des maisons intergénérationnelles. À Fayet-le-Château, un village du centre de la France, 4 de ces maisons ont vu le jour il y a quelques mois. C'est un reportage de Marie Casadebet.
Dans la salle commune, Monique, Raymond et Fernande sont confortablement installées. Elles ont toutes un peu plus de 80 ans. Elles vivaient auparavant chez elles, souvent dans des maisons isolées de cette région rurale.
Je ne pouvais plus faire toute seule. J'avais peur d'aller en maison de retraite. Tout ce qu'on entendait dire, tout ce que les personnes que j'avais vues, ça m'enchantait vraiment pas. Mais ici, c'est sensationnel, on est chez nous, on fait notre train-train comme on veut.
Ici, c'est très bien, moi je m'y plie bien et tout.
On a à peu près tous le même caractère.
On ne s'est jamais battu encore.
Pour devenir accueillante familiale, Maria Gros a dû recevoir un agrément du département et suivre une formation. Elle est rémunérée par ses résidentes, 1 300 € mensuels par personne âgée, lorsqu'une aide-soignante en EHPAD est payée moins de 2 000 € par mois. La personne âgée s'y retrouve aussi financièrement, elle bénéficie d'un crédit d'impôt. Elle n'a pas à compter sur sa famille pour l'aider à payer une place en EHPAD qui coûte en moyenne 2 000 € mensuels. Une réussite à tous les niveaux pour Bruno Valadier, le maire de Fayet-le-Château. C'est son expérience en EHPAD qui l'a guidé. Il exerce d'ailleurs toujours comme médecin gériatre.
Moi, je me suis appuyé sur la souffrance à la fois de mes collègues de travail, en particulier des aides-soignantes, avec une qualité de vie des personnes âgées qui se trouve, à mon sens, extrêmement dégradée. À titre personnel, je veux habiter en famille d'accueil, je ne veux pas habiter en EHPAD, alors que c'est là que je travaille.
C'est là aussi que travaillait Maria Gros comme aide-soignante avant de devenir accueillante familiale, une situation qu'elle ne supportait plus.
Toujours restreindre le personnel, c'est juste de la folie. Et ça, j'en pouvais plus. On avait entre 12 et 15 personnes le matin en toilette. Il y a des maisons de retraite où c'est carrément le double.
Cette alternative aux établissements collectifs, Bruno Valadier y croit. Pour le maire de Fayet-le-Château, le concept a tout pour être développé sur le territoire. Et la crise sanitaire que la France traverse ne fait que renforcer sa conviction que les maisons de retraite telles qu'on les connaît ne sont plus du tout adaptées.
Un des gros problèmes des grosses EHPAD, c'est de se dire si le virus rentre, on va avoir une catastrophe qui est énorme avec des décès, comme on l'a vu au cours de la période récente, qui impose un isolement sévère qui coupe tout le lien familial pour les personnes accueillies qui ne voient plus leur famille, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne les voient plus, pour les protéger, mais qui engendrent des risques secondaires intolérables.
Monique, Fernande et Raymonde, elles n'ont jamais été coupées de leurs proches pendant le confinement. Elles ont continué à recevoir leur famille, avec précaution évidemment, et à profiter du soleil dans les jardins de la résidence ou sur la place du village.
Et tandis que l'inquiétude monte face au Covid-19, les mesures de restriction se multiplient, couvre-feu en France, dans les métropoles les plus touchées. Mais pas seulement, on fait le point avec vous, Daniel Vigneron du site myeurope.info. Daniel, cette deuxième vague de Covid-19, elle est générale en Europe.
Oui Juliette, même si certains États sont encore plutôt épargnés, comme en Scandinavie et dans quelques pays de l'Est. Ailleurs, on observe une aggravation spectaculaire des contaminations et des décès. C'est le cas en France, en Espagne, au Royaume-Uni ou en Belgique. Et cela se produit également dans des pays qui avaient été relativement épargnés par la première vague de Covid, notamment en République tchèque, en Roumanie ou en Pologne. Pour vous donner une idée, depuis 7 jours, il y a à peine plus de morts du Covid en France qu'en Roumanie, alors que ce pays est 3 fois moins peuplé. Et il y a 3 fois plus de morts en Tchéquie qu'en Allemagne.
Daniel, est-ce que l'Allemagne reste épargnée comme lors de la première vague ?
C'est vrai, mais depuis peu, le nombre de contaminations y augmente sérieusement. Même phénomène en Italie, où le nombre de décès commence à repartir, mais reste trois fois moins élevé qu'en France. À l'évidence, le traumatisme de la flambée épidémique du printemps conduit nos voisins transalpins à beaucoup mieux respecter les mesures barrières.
Et j'imagine, Daniel, que tout le monde instaure de nouveau des restrictions.
Partout, l'objectif est d'éviter à tout prix les reconfinements généraux de populations qui ont tant coûté à l'économie. Mais chaque pays mène sa propre stratégie. Ainsi, en France, l'accent est mis sur des restrictions et fermetures ciblées. L'état d'alerte maximale est désormais en vigueur dans les principales villes du pays, ce qui implique notamment la fermeture totale des bars et des protocoles sanitaires renforcés pour les restaurants ou encore une limitation des rassemblements. Mais d'autres pays se montrent beaucoup plus intrusifs dans la vie privée.
Et par exemple ?
Nos voisins britanniques vont jusqu'à prohiber les rassemblements de plus de 6 personnes à l'intérieur comme à l'extérieur, sauf bien sûr dans les écoles et les lieux de travail. La Belgique va encore plus loin en exigeant de ne pas dépasser 4 personnes pour les rassemblements privés et de limiter à 3 par mois les contacts dits rapprochés, c'est-à-dire sans masque et à moins de 1,50 m. Ces gouvernants n'hésitent donc pas à intervenir dans la vie intime de leurs citoyens. Reste à savoir comment ils pourront contrôler le respect de ces injonctions.
Et on ne ferme les bars qu'en France ?
Non, bien sûr, la mesure est classique, même si elle est souvent limitée à une fermeture à 22 ou 23 heures le soir. Cela dit, en Écosse, Édimbourg et Glasgow ont décidé de fermer leurs pubs et Bruxelles ses bars.
Est-ce qu'on peut parler des restrictions de circulation ?
Elles sont en vigueur à Madrid et dans sa région, où est imposé un bouclage partiel. Pas question de sortir de son quartier, sauf pour des motifs de travail, d'études ou de santé. En Allemagne, il est depuis peu interdit d'héberger des personnes qui proviennent d'autres zones du pays classées à risque.
Et pour finir, Daniel, il y a des mesures également assez originales qui sont prises.
Eh bien, allons en Pologne. À côté d'une obligation assez classique du port obligatoire du masque dans tout l'espace public du pays, le gouvernement vient d'édicter une mesure ciblée sur les personnes âgées. Les seniors se voient désormais réserver des créneaux horaires pour faire leurs courses. C'est sans doute discriminant, mais probablement assez efficace en termes de prophylaxie antivirus.
Merci Daniel, à bientôt.
À bientôt Juliette.
Au Portugal, vignerons et scientifiques collaborent pour repérer les pieds de vigne les mieux adaptés à une diminution des ressources en eau pour cause de changement climatique. À Reguengos de Monsaraz, à 170 km au sud de Lisbonne, où Marilyn Darcy s'est rendue, un reportage financé par le programme IMCAP de l'Union européenne.
D'étranges sons résonnent entre les rangs de vignes du domaine des Sporons à 170 km au sud de Lisbonne. Le drone, à l'origine des clics métalliques, est l'un des outils performants utilisés dans la vigne d'Echeporan pour étudier son comportement face au changement climatique. Il s'agit d'un vignoble pas vraiment ordinaire. Il est composé de plus de 180 cépages différents, locaux, nationaux, internationaux, scrutés minutieusement par les scientifiques de l'INAV et leurs partenaires techniques au viticole. José Silvestre, qui dirige le programme Wine Clim Adapt, résume l'objectif des recherches entamées en 2018 sur le domaine.
Il s'agit de mesurer la résistance au manque d'eau, aux températures élevées et un autre paramètre qui concerne la transpiration des plants avec la sécheresse de l'air. Ici, nous connaissons des températures extrêmes. C'est pourquoi il est nécessaire de faire des études dès maintenant, car nous avons besoin de réponses à très court terme, 5 ou 10 ans. Malheureusement, les changements climatiques s'accélèrent.
L'évolution climatique et les phénomènes de chaleur et de sécheresse préoccupent les scientifiques. José Silvestre.
Malheureusement, le Portugal, l'Espagne et l'ensemble du bassin méditerranéen se trouvent dans l'une des zones du monde les plus affectées par les changements climatiques. Nous devons nous en préoccuper et imaginer ce qui va se passer si les températures augmentent de 1 degré, 1 degré et demi, ou si la pluie diminue comme nous le constatons.
« L'Erdad de Esporon, c'est 450 hectares de vignes, entre autres cultures. On y élabore un vin réputé. Mais la production souffre de la chaleur et de la raréfaction de l'eau. Cette année, les vendanges ont commencé dès le début du mois d'août sous une chaleur de 43 degrés. Rui Flores est responsable viticole sur le domaine.
Ce n'est pas normal. Le réchauffement est observé depuis longtemps, mais depuis 2014, ça s'accélère. Ces 6 dernières années, on a battu 4 fois le record de chaleur. Cela nous contraint à commencer plus tôt les vendanges. Pourtant, même comme ça, les grappes n'atteignent pas la qualité souhaitée, parce que les fortes chaleurs créent des déséquilibres au niveau de la maturation des raisins. Quand on a le bon degré de maturation alcoolique, on n'a pas les arômes. On a eu des températures au-dessus de 45 degrés, parfois même 5 jours de suite, comme en 2018.
L'impact sur la qualité du vin commence à se faire sentir. Le domaine d'Esporon a décidé de faire migrer une partie de sa production viticole vers d'autres régions. L'ingénieur Rui Flores.
On a acheté une exploitation à Portalegre au nord pour y planter de la vigne. On arrive à y produire un vin de qualité spécifique, en perte de vitesse ici. On grimpe, on réduit la superficie du vignoble au sud et maintenant on essaie d'adapter de nouveaux plans pour maintenir le niveau qualitatif des dernières années.
Alors qu'un mini tracteur équipé de caméras et de senseurs en tout genre sillonne sans relâche les vignes expérimentales, une jeune femme pointe un curieux engin, un spectroscope de fluorescence, vers les grappes de raisin. Patricia Martins, ingénieure à l'Ignave.
Le senseur émet différentes ondes lumineuses. Le raisin va alors émettre une fluorescence que le spectroscope analyse, selon la concentration des composés que l'on mesure. En ce moment, j'analyse les composés spécifiques, les anthocyanes qui donnent la couleur au raisin et qui vont apporter l'équilibre en tanin du vin.
Le drone qui survole la vigne expérimentale va dresser une carte 2D et 3D des anomalies ou des bons comportements des plantes vignes. Face aux changements déjà constatés, il faut s'adapter. Les vignes sont irriguées grâce au barrage d'Alqueva, non loin. Autre adaptation, la sélection des plants de vignes par clonage. Ça, c'est l'affaire de Georges Baum. Cet Allemand installé depuis de nombreuses années à Montemor, à une trentaine de kilomètres d'Esporon, sur le domaine de Plancel, sélectionne les meilleurs plants dans sa pépinière. Georges Baum est l'un des partenaires du projet de l'Ignave.
Faire le travail de génétique, de faire les tests, de prouver les caractéristiques, etc. Et je ne crois pas qu'avant 10-15 ans, nous sommes capables de vendre des nouvelles plantes de cette sorte. Nous avons de la première génération de résistantes commençant il y a 40 ans avec des plantes et que maintenant, cette année au mois de mars, la première variété, le défenseur, était officiellement reconnue. Et ça va être pas beaucoup plus vite avec les nouvelles travaux et ça va être toujours trop tard. Mais je crois qu'il faut faire.
La course contre la montre est enclenchée. Les scientifiques espèrent avoir sélectionné les plants résistants au stress d'ici la fin du programme en 2022.
On part sur les bords de la Baltique, sur la côte lettonne, à la découverte de la maison des écrivains et des traducteurs de Ventspils avec Marielle Fituro.
Pendant un mois, ne rien faire d'autre qu'écrire, c'est ce que propose la petite ville de Ventspils aux traducteurs et aux écrivains. Quand son maire, Eva Slembergs, férue de projets démesurés, a eu vent de l'idée de la grande et productive écrivaine lettonne Nora Ikstena et de la ministre de la Culture, il a tout de suite répondu présent. Un comité d'experts renouvelé tous les ans sélectionne les résidents, une manière de s'ouvrir à toutes les formes de la création littéraire, fiction, pièces de théâtre, essais, scénarios. La préférence est donnée à ceux qui se lancent dans une carrière d'écrivain. 15 ans plus tard, la Maison des traducteurs existe toujours, financée en grande partie par le ministère letton de la Culture. Elle demeure un des piliers de la production littéraire en Lettonie, puisqu'à côté des Mexicains, des Canadiens, des Néo-Zélandais, un tiers des places est réservé aux auteurs locaux. Une formidable ouverture sur le monde pour Yeva Balodé, responsable des projets internationaux.
Quand nous avons ouvert cette maison, nous avons nourri en secret l'espoir qu'elle soit un lieu de rencontre mondiale. Et aujourd'hui, grâce à ce lieu, il y a de très nombreux romans ou des nouvelles qui se passent à Ventspils.
Le succès de cette maison de la littérature s'est forgé via le bouche à oreille et toutes les places sont déjà prises jusqu'en 2022. Mais aujourd'hui, ce lieu est investi d'une nouvelle mission, faire connaître la littérature lettonne à l'étranger en accordant des résidences plus longues et en organisant des cours de letton pour les traducteurs.
Accent d'Europe, une émission réalisée par Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.